France Inter.
Et le journal de 13h vous est présenté par Fabien Fourel. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous. Berlin et Paris déjà sur une ligne différente au lendemain de la promesse d'Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine de l'État de Palestine. L'Allemagne ne l'envisage pas à court terme. Réunion entre Paris, Berlin et Londres chamboulée aujourd'hui. Tandis qu'en France, le socle commun est à nouveau divisé. Les Républicains fustigent la décision du président. Pour la première fois, un pays du G7 soutient la création d'un État palestinien. Au moment où l'urgence grandit à Gaza, nouvel appel à l'aide de Médecins Sans Frontières ce matin. Un quart des enfants de moins de 5 ans examinés la semaine dernière souffrent de malnutrition. Il est libre et dans les airs. Georges Ibrahim Abdallah doit atterrir dans quelques instants au Liban. Après 40 ans de détention en France, très attendu, nous serons en direct sur place. L'actualité, c'est encore moins de champagne cette année pour coller au juste prix. L'héritage des Jeux de Paris 2024, un an jour pour jour après la cérémonie d'ouverture, le quartier de la Porte de la Chapelle à Paris se métamorphose. Des vaches malades, une étape du Tour de France écourtée, 34 km de moins aujourd'hui et certains élus sont en colère. Et puis le rappeur français Gims a-t-il vraiment envisagé un duo avec la fille du président américain Donald Trump? Fausse note ou vraie polémique, l'affaire fait du bruit. Un mot, un geste et un tournant historique dans l'histoire de la diplomatie française en témoignent les réactions très vives au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. Décision rejetée par les États-Unis et colère en Israël. La reconnaissance française récompense la terreur pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais ce n'est pas l'avis de tous les Israéliens. Reportage à Jérusalem, Michel Paul.
Sous une chaleur accablante à Jérusalem, juste avant le Shabbat, c'est le temps de boire un café tout en discutant de la situation politique. Contrairement à la classe politique, les opinions dans ces discussions sont plus mitigées. Hanan Avriel est un ancien journaliste.
C'est un peu tôt pour juger de l'ampleur des réactions parce que c'est tout nouveau. Et je pense que ça va jeter un pavé dans la mare en Israël qu'il va falloir en tenir compte, surtout si ça se produit ailleurs, en Italie, en Allemagne, etc.
Beaucoup plus tranché, Assaf ne mâche pas ses mots.
L'annonce stupide du président Macron met totalement en danger la vie de nos otages. C'est un encouragement au Hamas pour durcir ses positions. C'est très regrettable. Je crois qu'Israël fait face à une campagne politique dont on n'imagine pas les implications à venir.
C'est le moment d'annexer les territoires occupés, estiment plusieurs passants, qualifiant d'épithète peu amène la décision française. À l'inverse, David est d'accord avec le président français.
C'est une annonce que j'accepte, la fin du conflit et l'établissement d'un nouvel État. Comme cela a été décidé en 1948, deux États pour deux peuples, en espérant que cela mettra fin à la guerre. Alors Macron n'a pas tort. En gros, il n'a pas tort.
Une position qui semble très minoritaire, à ce stade en tout cas.
Michel Paul à Jérusalem pour France Inter. La reconnaissance de l'État de Palestine s'invite au menu d'une rencontre entre le président français, le premier ministre britannique et le chancelier allemand. Cette réunion devait initialement aborder la question de l'urgence à Gaza, la famine encore plus préoccupante. On va y revenir dans une minute, mais l'ordre du jour est forcément bousculé. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Rédaction internationale, le président français voulait emmener avec lui ses homologues. L'Allemagne ferme déjà la porte.
Oui, c'était bien l'intention d'Emmanuel Macron de provoquer cet effet domino. Mais l'Allemagne vient de couper court à toutes les spéculations. Dans un communiqué, Berlin dit ne pas envisager reconnaître un État palestinien à court terme. Une des dernières étapes vers la solution à deux États, précise le gouvernement allemand, qui rappelle l'importance primordiale pour l'Allemagne de la sécurité d'Israël. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, lui, l'a déjà dit. Pour lui, une reconnaissance de la Palestine ne doit pas être un geste isolé, mais bien faire partie d'un processus multilatéral, envisageable uniquement au moment le plus opportun, lorsque les conditions diplomatiques et humanitaires seront jugées mûres, notamment après un cessez-le-feu.
Et Claude, outre cette difficulté à aligner les Européens, la décision d'Emmanuel Macron va se heurter à d'autres obstacles.
Oui, parce que ce que Emmanuel Macron aurait voulu faire au départ, c'était assortir cette reconnaissance par la France à celle d'Israël par les États arabes, une perspective rendue évidemment impossible aujourd'hui avec la situation à Gaza. Emmanuel Macron dit aussi avoir pris sa décision après les engagements pris, selon lui, par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sur la nature d'un futur État palestinien. Or, cet argument, il le sait bien, hein, il est fragilisé par la position même de Mahmoud Abbas, dont le pouvoir réel, on le sait, est faible, et puis sa légitimité contestée, lui qui dirige l'autorité palestinienne depuis 16 ans, sans élection. Et puis, il y a deux oppositions majeures, les États-Unis de Donald Trump et leur refus net de toute reconnaissance d'un État palestinien, et puis la fureur d'Israël, lourde de conséquences diplomatiques et politiques pour le président français.
Claude Guibal, rédaction internationale. Et je me tourne vers vous à présent, Laurence Perron, parce que l'annonce du président fait réagir toute la classe politique et divise en France, y compris Laurence, au sein du socle commun.
Oui, alors les critiques sont pour l'heure assez timides hein, dans le camp macroniste, à l'exception de celle très courroucée de la députée des Français de l'étranger, Caroline Yadan, qui poste sur le réseau social X ces mots « Le jour du pogrom du 7 octobre ne saurait être érigé comme le mythe fondateur d'une nation, quelle qu'elle soit, la paix ne se décrète pas, elle ne résulte pas d'un geste unilatéral ». Elle rejoint en cela l'indignation de la droite LR exprimée ce matin par le numéro 2 du parti, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. « Je ne comprends pas cette décision du président de la République, dont il rappelle qu'il avait fixé quatre conditions pour la reconnaissance d'un État de Palestine, dont la paix, et d'asséner. Pouvons-nous imaginer que le Hamas remercierait un jour la France ?» La patronne du RN va plus loin, sur X toujours. Elle accuse « Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas et donc un État terroriste. Il n'y a dans ce geste aucune fidélité à l'histoire de la France. Marine Le Pen estime que cette décision constitue une faute politique et morale, y compris à l'égard des Palestiniens qui subissent, dit-elle, le joug du Hamas. »
Laurence Perron, les dessous de l'annonce française de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est à lire ce midi sur franceinter.fr. Cette annonce française, mais sur le terrain, rien ne change. Un nouvel appel au secours de l'ONG Médecins Sans Frontières. Un quart des enfants de moins de 5 ans examinés la semaine dernière dans la bande de Gaza souffrent de malnutrition. Amande Bazerolle est coordinatrice des urgences pour MSF.
C'est plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui sont privées de nourriture et notre personnel est également privé de nourriture aujourd'hui et ne trouve plus rien à s'approvisionner sur les marchés. Nous, on a des cargos qui attendent pour entrer, que ce soit en Égypte, en Jordanie, avec des contraintes douanières extrêmement importantes de la part des autorités israéliennes, ce qui fait que ça ralentit énormément, non seulement le process, mais en plus à l'intérieur, le fait qu'ils fassent rentrer au compte-gouttes met en péril n'importe quel cargo qui rentre, parce qu'une population affamée depuis bientôt 5 mois, évidemment, on est face à un pillage systématique de tout ce qui rentre, parce que ça ne rentre pas en assez grande quantité et de manière soutenue. On voit qu'aujourd'hui, à nouveau, les autorités israéliennes ne respectent pas leur part du marché. On voit bien que rien ne rentre et que vraiment, il faut vraiment les gens sont en train de mourir littéralement de faim.
Amande Bazerolle, coordinatrice des urgences pour Médecins Sans Frontières, jointe par Noah Perry. 40 ans de prison et un retour à la maison. C'est aujourd'hui que rentre chez lui le Libanais Georges Ibrahim Abdallah, militant pro-palestinien emprisonné depuis les années 80 pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains. Il a décollé de Paris ce matin et devrait atterrir à Beyrouth dans quelques instants. Vous êtes en direct sur place pour Inter. Bonjour Arthur Saradin.
Bonjour.
Est-ce que Georges Ibrahim Abdallah représente toujours quelque chose pour les Libanais ?
Oui, en tout cas pour une partie des Libanais. La preuve en est avec ce comité d'accueil qui est en ce moment devant moi à l'aéroport de Beyrouth. Ils sont plusieurs dizaines de militants de gauche réunis avec des keffiyehs, des drapeaux libanais, certains du parti communiste ou des affiches à l'effigie de Georges Abdallah. L'armée est déployée tout autour de nous. Georges Abdallah passera par le salon d'honneur de l'aéroport de Beyrouth où il sera accueilli. Sa famille, elle nous le confiait il y a quelques jours. Il ne s'attendait pas à le voir revenir un jour ici au Liban. En 40 ans, il faut dire que tout a changé dans son pays natal. Georges Abdallah avait été emprisonné, on le rappelle, en plein milieu de la guerre civile libanaise. Entre-temps, plusieurs guerres ont eu lieu. Le pays entier s'est enlisé dans une crise économique sans précédent. Le seul élément à demeurer des décennies plus tard, et on le voit à travers ce drapeau palestinien qui est dans la foule devant moi, c'est cette question palestinienne, sans doute plus que jamais avec ces images qui nous parviennent quotidiennement de Gaza. Le Liban non plus, il n'a pas été épargné depuis ces 2 dernières années par les bombardements israéliens qui ont laissé des dégâts considérables et des civils traumatisés. C'est donc aussi dans un pays détruit que Georges Abdallah va retourner cet après-midi.
Arthur Saradin, Dindin en direct de Beyrouth pour France Inter. Dans l'affaire des airbags Takata, pour la première fois en France, un distributeur automobile de l'île de la Réunion est mis en examen pour les blessures du conducteur d'un véhicule. Il s'agit du détenteur d'une BMW qui a subi des blessures graves au visage, notamment. Les airbags défectueux Takata seraient responsables d'au moins 60 morts dans 11 pays ces 15 dernières années, dont 18 en France. L'appel du député NFP Alexis Corbière ce matin. J'invite le président de la République à demander une deuxième délibération à l'Assemblée nationale autour de la loi Duplomb. Ce texte est selon lui dangereux pour les Français, dangereux aussi pour les agriculteurs. France Inter, 13h10. Produire sans vendre. À un mois des vendanges, les viticulteurs de Champagne vont devoir baisser le volume de leur récolte de 10 000 kilos de raisins par hectare l'an dernier à 9 000 cette année. Ce seuil est fixé chaque an par la profession au terme de négociations en fonction des prévisions de vente. Et pour la troisième année d'affilée, Sofia Berada, le rendement commercialisable est donc en baisse.
Quand Christine se promène dans ses vignes, 8 hectares dans la vallée de la Marne, elle trouve qu'elles ont fière allure.
Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, il n'y a pas de maladie, on a eu de belles chaleurs, donc les raisins sont beaux.
Mais quand elle jette un œil à ses espaces de stockage, ça lui cause plus de soucis.
Oh ben moi, ça commence à déborder un petit peu.
Alors quand l'interprofession lui a dit qu'elle devait baisser le volume de sa récolte, quitte à laisser des grappes sur les pieds de vigne, elle s'est dit que ça tombait bien et elle ne doit pas être la seule. Cette année, les stocks de tous les vignerons de la filière atteignent, selon Maxime Toubar, le co-président du comité Champagne,
un peu plus d'1,2 milliard de bouteilles en stock.
Soit 4 années et demie de vente, alors qu'un stock optimal serait plutôt situé à 3,7 années selon le comité.
Le champagne, c'est un symbole de joie, de célébration. Donc on voit bien que le contexte aujourd'hui politique, économique est compliqué.
Et la menace de droits de douane supplémentaires par Donald Trump n'arrange rien. Alors éviter un surstockage est devenu impératif.
On le voit bien, les risques. Il y a beaucoup de régions viticoles françaises qui sont aujourd'hui en surstockage. Quand vous avez aujourd'hui vos caves qui sont pleines et vos cuves qui sont pleines et que le commerce ne se fait pas, vous avez une dépréciation de votre stock, de la qualité.
Et si le surstockage devenait si important qu'il faille détruire du vin, cela pourrait abîmer l'image d'un produit haut de gamme selon le comité Champagne.
Sofia Berada, service économie de France Inter. La France en rouge sur les routes. Bison Futé prévient, circulation très difficile dans le sens des départs à l'aube de ce dernier week-end de juillet. Ce sera compliqué aussi cet après-midi dans le sens des retours, particulièrement pour quitter l'arc méditerranéen. Demain, la journée sera classée rouge également dans le sens des départs partout en France. Pour retrouver des conditions de circulation fluide, il est conseillé d'attendre dimanche. C'était un autre héritage promis après les Jeux Olympiques, la réhabilitation du quartier autour de la porte de la Chapelle dans le nord de Paris, avec notamment l'installation de l'Adidas Arena ou encore l'ouverture du campus Condorcet de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Une métamorphose très attendue dans ce quartier, connu pour la présence de nombreux dealers et consommateurs de drogue. Eh bien, un an après les Jeux, le secteur a beaucoup changé, Lucas Nitsch.
À la sortie du métro, Catherine découvre les statues dorées des 10 femmes mises à l'honneur lors des Jeux Olympiques. Elles ont été installées cette semaine, 5 de chaque côté de la rue, comme la touche finale de la transformation du quartier commencée il y a 2 ans.
Là, il n'y avait pas d'arbres, très peu. Il n'y avait pas ces grandes allées pavées. Il y avait donc 4 voies pour les voitures. Il n'y avait pas ces pistes cyclables. C'est quand même plus agréable, cette allée fleurie. Enfin, il n'y a pas photo, quoi.
Autre changement qui saute aux yeux, selon Basilia, moins de toxicomanes.
Les gens qui fument du cannabis, du crack, il n'y en a plus.
Au point qu'elle, qui demandait depuis des années à changer de logement social pour fuir le quartier, a finalement décidé de rester.
Les enfants, ils ont changé d'avis, ils ont dit d'accord. Avant, ils ne voulaient pas rester. Là, maintenant, ils se sentent en sécurité.
Pour Kevin Havé, adjoint au maire de l'arrondissement, l'héritage des Jeux, c'est aussi l'arrivée de nouvelles populations dans le secteur.
En ouvrant l'aréna, en ouvrant le campus, en ouvrant des commerces, on contribue aussi à occuper positivement l'espace public avec un objectif, de remettre de la mixité sociale.
Mais cette gentrification inquiète Catherine, qui habite ici depuis plus de 25 ans.
Je le vois même dans mon immeuble, des familles qui arrivent, des jeunes cadres, ça se voit tout de suite. J'ai peur que ça fasse augmenter les loyers.
Et au-delà de la question des loyers, de nombreux habitants se plaignent de la saleté dans les rues. Il reste encore beaucoup de progrès à faire, souligne-t-il.
La confiance des ménages en France se redresse légèrement en juillet d'un point de plus. Chiffre révélé ce matin par l'INSEE, les ménages se disent plus optimistes sur leur situation financière personnelle, mais la proportion d'entre eux estimant plus opportun d'épargner que de consommer est en hausse. Et puis le groupe Carrefour renouvelle son PDG. Alexandre Bompard restera au-delà de 2026. Le groupe de grande distribution ouvre aussi un nouveau chapitre stratégique et décide de vendre l'intégralité de ses activités en Italie.
France Inter, le journal de 13h, Fabien Fourel.
Et voici un mauvais tour pour la Grande Boucle, le parcours de la 19e étape du Tour de France entre Albertville et La Plagne, modifié à la dernière minute en raison de la présence d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire. Un abattage de vaches est prévu à Haute-Luce et face au risque de colère des éleveurs, exit le col des Saisies, 34 km de moins pour le peloton. Il ne passera pas sur la commune savoyarde de Crévolan. Le maire Christophe Rambeau ne décolère pas.
La décision de modification du tracé de la 19e étape n'est que la résultante d'une pression exercée sur l'État et la direction du Tour de France par des syndicats agricoles. Alors on peut comprendre le désarroi des agriculteurs, mais ce désarroi n'a aucun rapport avec la sécurité sanitaire de la course. La décision, de mon point de vue, n'a aucune logique sanitaire ni aucune explication scientifique. Pour moi, on est au cœur du mal français, dans lequel des petits groupes de pression, en voulant faire supporter aux autres leurs problèmes, détruisent lentement mais sûrement le fonctionnement de notre société. Je suis, vous l'avez compris, totalement écœuré devant l'effacement général de l'État et de nos hommes politiques. Non seulement l'État, la région, le département ne nous aident pas, mais en plus ils nous enfoncent.
Le départ de cette étape raccourcie à 95 km sera donné tout à l'heure à 14h30. Tadej Pogacar en jaune avec 4 minutes 26 secondes d'avance sur son rival Jonas Vingegaard. Enfin, y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas un duo entre le rappeur français Gims et Lara Trump, la belle-fille du président américain? On vous parlait mardi matin sur France Inter de cette collaboration révélée la veille par Paris Match, mais le rappeur dément sur son compte Instagram. Pourtant, bonjour Linda Rousseau.
Bonjour.
Pourtant, la conception de ce morceau polémique semblait déjà bien avancée.
La maquette de cette chanson intitulée « Macassi » a même fuité sur TikTok. Et pourtant, il n'y a pas de feat avec Trump, Martel Gims sur Instagram. Mais il y a quelques jours, le manager de Lara Trump avait bien annoncé cette collaboration entre l'artiste le plus écouté de France et l'ex-chroniqueuse de Fox News, reconvertie en chanteuse de country. Gims avait d'ailleurs repartagé l'interview sur ses réseaux. Dans son démenti, la star française assure aussi ne pas avoir de producteur, minimisant ainsi le rôle d'un dénommé Lil Serge Butcha. C'est pourtant cet homme installé à Los Angeles qui gère la tournée américaine du rappeur. Le logo de sa société de production sur les affiches de Gims en atteste. Et l'artiste aux 4 millions d'abonnés sur Instagram ne suit que 137 comptes, dont ceux de Lara Trump et Lil Serge Butcha. Alors pourquoi ce rétro-pédalage? La crainte d'un bad buzz auprès de son public pourrait lui avoir traversé l'esprit. Le chanteur, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, est en effet la tête d'affiche de la prochaine fête de l'UMA. Entre ce festival engagé à gauche et l'idéologie trumpiste, le grand écart était sans doute un peu trop acrobatique.
Linda Rousseau du service Culture Écran de France Inter. Et puis l'émission Interville range à peine ses jeux, qu'elle annonce son retour à l'été 2026. Le retour d'Interville a été suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs au plus fort cette année. Émission largement remaniée après 16 ans sans aucun été d'Interville et présentée par Nagui. Un œil sur le ciel.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Encore des averses, mais pour l'Est aujourd'hui.
Effectivement, l'instabilité qui a touché une large bande centrale du pays hier se décale vers l'Est aujourd'hui et les averses orageuses se développeront surtout entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, l'Auvergne, les Alpes et la Corse. Quelques éclaircies arriveront tout de même à se dessiner, notamment entre le plateau lorrain et le lyonnais. Le ciel sera aussi changeant entre les frontières belges, le centre-val de Loire, la Bretagne et les Pyrénées. Les nuages vont se morceler et laisser passer des éclaircies assez nettes, en particulier au nord de la Seine et dans les plaines du sud-ouest. Mais il faudra aussi composer avec quelques averses qui resteront faibles et localisées. Le soleil va lui revenir en force le long des côtes de la Manche et près de l'Atlantique. Et puis du Roussillon à la Provence, l'après-midi sera aussi ensoleillé sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane. Malgré une petite hausse, les maximales ont du mal à atteindre les valeurs de saison. Cet après-midi, il fera 22 à 28 degrés avec 25 degrés pour Lille, Nantes et Strasbourg ou encore 26 degrés à Paris, Lyon et Toulouse. Autour de la Méditerranée, on ira quand même jusqu'à 30 degrés à Marseille et Montpellier.
Merci Sébastien Léas.